Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Les Plantes Vagabondes, le rendez-vous nature de Radio G proposé par l'équipe du Plantis à Écuyer, le tiers-lieu associatif, rural, collaboratif et gourmand du nord de l'agglomération angevine. Un lieu inspirant et inspiré en pleine nature qui vous propose de nombreuses activités en lien avec les végétaux et la nature, les végétaux pour mieux les utiliser, les connaître et en faire des alliés précieux. Je suis Claudie, ingénieure paysagiste conseil, et avec Christelle, membre de l'association et réflexologue plantaire et relaxologue, aujourd'hui à la console du studio, nous partons en nature à la découverte de l'histoire, des légendes, du mode de vie et des usages des plantes sauvages. Aujourd'hui, nous allons réveiller nos papilles avec l'amarante, une plante comestible qui invite à réfléchir à l'utilité alimentaire des plantes sauvages et des plantes de nos jardins. Pour découvrir les qualités exceptionnelles de cette plante, cette émission vous emmènera visiter les jardins de Cocagne Angevin et Laura nous rejoindra dans sa chronique « Le bonheur est dans les simples ». Enfin, à la suite de l'émission, vous pourrez écouter un micro-trottoir de France Nature Environnement réalisé dans le cadre d'une consultation sur l'avenir de l'eau, consultation qui est conduite par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Le chant joyeux et tonique des moineaux nous accompagnera tout au long de la prochaine demi-heure. Une espèce présente toute l'année, très répandue et liée aux humains, puisqu'elle s'installe volontiers dans les cavités des bâtiments et les structures humaines. Fidèle en amour et omnivore, il se nourrit de fleurs, de graines et d'insectes, sans compter ce que laissent les humains, bien entendu. Espèce protégée et en déclin, chacun à notre échelle, nous pouvons donc favoriser leur installation dans nos constructions et aussi limiter la voracité de nos matous. Le mois de mai symbolise le renouveau et l'éveil de la vie sous toutes ses formes. C'est une occasion sans cesse renouvelée pour ouvrir nos sens et nous connecter au monde vivant. En préambule, et pour vous mettre l'eau à la bouche, je voulais partager avec vous un extrait du remarquable ouvrage « La révolution d'un brin de paille » écrite par le japonais Masanobu Fukuoka, dans lequel il décrit sa propre expérience de l'éveil, ce qui a ensuite imprégné toute sa démarche de vie.
Une nuit, comme j'errais, je m'effondrais à bout de force sur une colline surplombant le port, m'assoupissant finalement contre le tronc d'un grand arbre. Je gis là, ni endormi ni éveillé jusqu'à l'aube. Je peux encore me rappeler que c'était le matin du 15 mai. Dans un ahurissement, je regardais la lumière grandir sur le port, voyant le lever du soleil, et en même temps, en quelque sorte, ne le voyant pas. Comme la brise soufflait du bas de la falaise, le brouillard matinal disparut soudain. Juste à ce moment, un héron nocturne apparut, lança un cri aigu et s'envola au loin. En un instant, tous mes doutes et le brouillard lugubre de mon désordre s'évanouirent. Tout ce que j'avais tenu pour ferme conviction, tout ce qui avait l'habitude de me tranquilliser, était balayé par le vent. Je sentis que je comprenais une chose. Sans réfléchir aux mots, il sortit de ma bouche. Dans ce monde, il n'y a rien du tout. Je sentis que je ne comprenais rien. Je pouvais voir que tous les concepts auxquels j'avais été attaché, l'idée de la vie elle-même, étaient des constructions vides. Mon esprit devint léger et clair. Je dansais fou de joie. J'entendais les petits oiseaux gazouiller dans les arbres et je voyais les vagues étinceler au loin dans le soleil levant. Les feuilles dansaient, vertes et miroitantes. Je sentais que c'était vraiment le ciel sur la terre. Tout ce qui m'avait possédé, toutes les angoisses disparurent comme des rêves, des illusions, et quelque chose qu'on pourrait appeler la vraie nature se révéla. Je pense pouvoir dire à coup sûr qu'à partir de l'expérience de ce matin-là, ma vie a complètement changé.
Merci à Jean-Louis d'avoir prêté sa voix, et partons à la rencontre de l'amarante, accompagnée des moineaux. La plupart des amarantes sont originaires des zones tropicales et tempérées d'Amérique, d'Asie ou d'Afrique. Ces plantes herbacées, vivaces ou annuelles, peuvent atteindre en fonction des espèces 20 à 80 cm dans nos contrées, jusqu'à plus de 2 mètres sous les tropiques. Cette famille cosmopolite comprend une soixantaine d'espèces aux noms charmants et évocateurs, souvent en lien avec leur forme ou leur localisation. Amarante réfléchie, amarante émaillée, amarante de Constantinople, passe velours, mousse de Pan, queue de loup rouge, tricolore des Indes, blé des Incas, jalousie, fleur du grand maître, discipline religieuse, bave d'ivrogne. Il y en a pour tous les goûts, avise aux poètes en herbe. Très robuste et peu exigeante, elle pousse sous la forme d'une tige verticale et pubescente. Les feuilles alternes sont ovales, aux bords ondulés, et se déploient tels des plateaux tournés vers le soleil. De couleur vert pâle, elles présentent parfois des taches rouges ou brunes, très reconnaissables sur leur limbe. Le climat chaud et humide des tropiques leur permet de déployer un feuillage généreux, très apprécié, tel celle de l'amarante blette. Au fil de la croissance, la tige s'incline et devient rampante. Seule extrémité reste dressée pour offrir en juin son inflorescence en grappe caractéristique appelée panicule. Souvent, ces inflorescences sont portées par des rameaux secondaires dressés. Toutes les amarantes ont en commun une longue floraison automnale spectaculaire en forme de grappe dépourvue de feuilles, telle l'amarante américaine queue de renard ou l'amarante crête de coq. Certaines inflorescences, en effet, se courbent et pendent en se courbant vers le sol. Les fleurs, minuscules et extrêmement nombreuses, sont vertes ou rouges vifs, selon les espèces, et fournissent de nombreuses graines très appréciées des oiseaux pour passer l'hiver. De nos jours, les amarantes redeviennent prisées dans les jardins du fait de la beauté des floraisons et aussi pour ses qualités potagères. Le semis se fait en mars, mais vous pouvez aussi trouver des plants de célosie dans toute bonne jardinerie, car escargots et limaces sont friands des jeunes feuilles. Facile à cultiver, elle s'invite aussi sur les balcons. Gélive, elle passe rarement l'hiver sous nos climats. Vous pouvez cependant les protéger à l'abri du vent. Si elle apprécie le soleil, elle s'acclimate volontiers à l'ombre légère. Elle supporte les sols secs et peu nutritifs. La couleur vive des floraisons attire de nombreux butineurs, tels les abeilles et les papillons. Leur feuillage généreux et la structure de leur végétation assurent un abri protecteur aux petits mammifères et insectes, contribuant ainsi à un bon équilibre de la biodiversité. La grande quantité de graines nourrit de nombreux oiseaux, si vous préférez assurer leur alimentation de façon naturelle. La persistance de sa floraison permet d'en confectionner de jolis bouquets secs. Et dans le potager, outre sa culture potagère bien sûr, elle constitue un excellent engrais vert qui enrichit le sol, améliore sa structure. Les espèces sauvages s'installent volontiers sur les bords de trottoirs à l'instar de l'amarante couchée ou de l'amarante réfléchie. Elles sont souvent considérées comme mauvaises herbes par les agriculteurs, notamment aux États-Unis. L'usage intensif des herbicides de synthèse comme le glyphosate depuis les années 70 a notamment provoqué l'apparition de souches résistantes partout dans le monde. Et ces amarantes, débarrassées des autres adventices concurrentes, envahissent des cultures comme le soja, ce qui démontre la limite de telles pratiques agricoles. L'amarante est une famille de plantes généreuses pour l'alimentation et favorable aux autres espèces. Pour faire la transition avec le potager, je vous invite à écouter maintenant l'interview réalisée au jardin de Cocagne-Angevin à Saint-Barthélemy d'Anjou pour parler potager et de l'amarante, bien entendu.
Bonjour André, bonjour. Alors tu es chargé de mission au jardin de Cocagne, Angevin, et donc j'ai le plaisir d'être sur site, et donc en général on débute toujours nos interviews pour connaître un petit peu l'histoire des structures qui nous accueillent, okay. Donc le jardin de Cocagne, Angevin, peut-être que tous nos auditeurs ne le connaissent pas, donc qu'est-ce que c'est, quelles sont ses missions, puis surtout, quelle est l'histoire de...
Alors,
ces jardins.
L'histoire du jardin de Cocagne-Angevin, elle est précédée d'une autre histoire. Donc, c'était pas le premier jardin de Cocagne en France, puisqu'on a une petite centaine en fait sur toute la France. Le premier, il a été créé en 1991 dans l'est de la France, et ça a ensuite essaimé un peu partout. Le jardin de Cocagne-Angevin, lui, il a été créé en 1999, donc à la même période où les jardins commençaient à se structurer en réseau. C'est-à-dire que cette année-là aussi, il y a le réseau Cocagne qui est apparu, et donc qui a servi un peu à porter la voix au national de tous les jardins de Cocagne et de la mission de ces jardins-là. Ils sont apparus premièrement parce qu'ils défendaient une mission d'insertion professionnelle. Grosso modo, les jardins de Cocagne se sont positionnés, ils ont nous on a un outil de travail qui est le maraîchage biologique, qui est plus est, parce que c'était aussi porteur d'un message de faire du maraîchage biologique à cette époque-là. Et que grosso modo, ces personnes qui étaient laissées sur le bord du chemin pouvaient rejoindre les jardins de Cocagne dans le cadre d'un contrat encadré par l'État, et ce qui leur permettait de se remettre un peu le pied à l'étrier, de se re-sociabiliser, de redécouvrir aussi autre chose qu'un quotidien, que des difficultés. Et que c'est un des préceptes vraiment fondateurs du jardin Cocagne-Angevin, c'est l'accueil inconditionnel. C'est que, qu'importe l'origine des gens, qu'importe leurs difficultés, on les accueille, en fait, nous, au niveau de notre organisation professionnelle, on va s'adapter justement aux difficultés de chacun pour pouvoir leur donner les outils de développer leur projet, que ce soit professionnel, personnel ou autre.
D'accord. Et donc aujourd'hui, le jardin de Cocagne Angevin est aussi donc une exploitation maraîchère.
Ouais.
Donc ça veut dire que quelque part, faut des surfaces, des terres consacrées à ça. Ouais. J'ai vu qu'il y avait c'est un peu plus de 7 hectares, c'est ça ?
C'est ça. Mmh. Alors en fait, au total, on a 14 hectares sur le jardin de Cocagne qui sont dispatchés sur plusieurs terrains. Donc le centre de la ferme est à Saint-Barthélemy-d'Anjou, où je crois qu'on a un peu plus de 6 hectares de mémoire, et ensuite on a des terrains qui sont un peu dispatchés entre le Plessis-Gramoir et d'autres zones de Saint-Barthélemy. Et au total c'est 14 hectares, et sur les 14 en fait on en a 7 qui sont cultivés à l'année, en rotation.
D'accord.
Et à la fin de l'année, c'est sur un volume de 80 tonnes de légumes qui est produit, tout en bio. Et avec l'idée que le fonctionnement de tous les jardins de Cocagne, c'est un panier auquel s'abonnent les gens. Et qu'à l'heure actuelle, on est sur un volume d'environ 500 paniers semaine, qui sont distribués donc à la Boulevarderie, mais aussi sur plusieurs sites à Angers. Et c'est un de nos supports d'insertion aussi, c'est-à-dire que les personnes qui viennent ici, ou font les livraisons, ou font les distributions des paniers. Comme ça permet aussi d'expérimenter d'autres aspects de l'emploi, l'emploi maraîcher, c'est-à-dire le contact avec les adhérents. Et l'idée, c'est aussi de développer le nombre de paniers afin de aussi pouvoir améliorer les conditions de travail au jardin à terme. Et puis du coup, il y a sur ce pan de l'activité, de l'accessibilité alimentaire, on a également une plateforme de tri que le jardin a montée en 2011 et qui vise en fait à répondre à deux problématiques, à la problématique du gaspillage alimentaire et à la problématique de l'alimentation. Alors que d'un autre côté, en fait, on a énormément de producteurs qui ont des pertes, en fait, que ce soit au champ, des invendus ou des déclassés. Et le Jardin Cocagne, en fait, en lien avec le CCAS de la ville d'Angers, a choisi de proposer un dispositif de distribution de fruits et légumes. C'est-à-dire que tous les fruits et légumes récupérés par le Jardin de Cocagne sur la plateforme de tri du Jardin de Cocagne sont triés puis redistribués dans toutes les maisons de quartier dans le cadre de ce dispositif alimentaire-là.
D'accord. Bon, en plus, je sais qu'en plus des paniers, il y a aussi un marché ici, mais sur le site de Saint-Barthélemy.
Ouais.
Donc c'est vendredi, je crois que c'est ça.
C'est ça, le vendredi matin.
Merci André pour cette interview. Et puis nous allons poursuivre avec Valérie à la rencontre de l'Amarante. Alors, bonjour Valérie, tu prends le relais de André. Et donc, ma première question, c'est quelle est ta mission, toi, au sein de Jardin de Cocagne ?
Bonjour. Alors, j'ai une double mission. Je suis rentré au Jardin de Cocagne il y a un an en tant qu'encadrant technique. C'est-à-dire, avoir une équipe. C'est un peu, en gros, un chef d'équipe avec une équipe de jardiniers en insertion que l'on doit accompagner dans les gestes. simplement, pour pouvoir dans un premier temps un peu évaluer leurs difficultés en lien avec le pôle social, et puis surtout les impératifs de production, puisque pour être rentable, le jardin doit vendre aussi ses légumes. Et puis depuis le début de l'année, je suis à mi-temps sur le pôle social.
Je ne sais pas par quel volet on peut commencer, mais déjà au quotidien, la Marante, sur le terrain, vous la connaissez en tant que cultivée ou invitée?
Alors, invitée, elle s'invite elle-même, cette plante. Oui, c'est ce qu'on appelle une mauvaise herbe, un adventice de culture. Tout comme le coquelicot, le bleuet, c'est ce qu'on appelle des missicoles,
voilà.
En fait. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'en travaillant la terre, on va ressortir le stock de graines et donc tous les ans ça va regermer. On aura beau désherber pendant des années, on en aura toujours un petit peu. Alors c'est bien parce que ça attire des insectes, des auxiliaires, ça c'est un avantage. C'est pas la plante qui attire le plus les auxiliaires, c'est pas un gros aimant à auxiliaires de culture. Nous dans les cultures, quand elles s'invitent notamment dans les carottes, pour nous, c'est une catastrophe, parce que la carotte n'aime pas la concurrence. Hein. Ça fait partie des légumes qui sont très sensibles à la concurrence. Et la marante, comme le pourpier, sont justement des gros collinisateurs. Donc nous, on intervient dans le cycle de culture de la carotte au moins 3 à 4 fois pour arracher. Chaque fleur fait 1 mm. Il y en a plusieurs milliers par panicule, donc plusieurs milliers de graines, parce qu'il y a une graine par fleur. Il y a un seul ovaire par fleur, uniquement.
Donc, alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a qu'un ovaire, mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a plein de fleurs.
Et voilà, c'est exactement ça. Donc, c'est vrai que nous, au jardin, on pourrait l'exploiter, la commercialiser et la cultiver. Donc, la cultiver, pour l'instant, on n'a pas besoin. On a une production naturelle largement suffisante. La commercialiser, c'est comme toute nouveauté. Ça met longtemps à s'installer. La patate douce, il y a 25 ans, on n'entendait pas parler. Maintenant, on entend parler. Eh bien, peut-être que la marante, ça fera la même chose dans 20 ans. Puisque la marante, on peut la consommer de deux manières différentes, essentiellement cuite, les graines et les feuilles. Petite recette très simple, c'est faire, au lieu de faire une sauce à l'oseille, c'est faire une sauce à la marante.
Ah oui.
Un peu d'échalote, un peu de citron, un peu d'amarante, feuilles d'amarante hachées finement. Et puis, une fois qu'on a réduit ça, qu'on a fait fondre, on rajoute un peu de beurre et un peu de crème. Et puis, on a une sauce qui accompagne le poisson ou une viande blanche, je pense. Formidable.
Tout ça. Ouais.
Ça permet de commencer, de découvrir le goût qui a un goût de un peu de noisette, légèrement, qui peut être poivré et légèrement terreux. Un peu comme la feuille de betterave que l'on mange
oui,
de
d'accord.
plus en plus.
Oui, dans les mesclins, on en trouve
exactement.
De plus en plus.
Exactement. Ouais. Donc, cuit, il aurait tendance à perdre un peu ce goût-là. Après, on peut passer à une grande casserole de feuilles pour faire des épinards, tout ça, comme des épinards. Et donc, automatiquement, cette plante, même si, comme l'épinard, si on n'en mange pas beaucoup, on n'en a pas beaucoup dans l'assiette, finalement, c'est assez roboratif.
En tout cas, merci Valérie pour ce témoignage. Et puis, pour nos auditeurs, vous êtes les bienvenus pour aller découvrir tous les beaux légumes avec les belles recettes proposées par les Jardins de Cocagne.
Merci, au revoir, à bientôt.
Vous êtes dans l'émission Les Plantes Vagabondes, l'émission 100% en nature de Radio G sur 101.5 FM et nous partons à la découverte de l'amarante. Plante potagère depuis au moins 7000 ans, l'amarante se cuisine de moult façons. Toutes les parties sont comestibles. Les graines peuvent être cuisinées comme du pop-corn. Il est possible d'en faire de la farine dépourvue de gluten. Les graines soufflées permettent de confectionner muesli et porridge. Très peu caloriques et riches en protéines, elles sont très utiles pour les amateurs de régime ou les végétariens. Pour récupérer les graines, il faut laisser sécher la plante entière, la tête en bas, au-dessus d'un tissu ou d'un sac. Quant aux feuilles, elles se cuisinent comme celles de l'épinard, avec l'avantage d'être un peu plus charnues et consistantes. Le plus simple est de les faire sauter à la poêle, surtout pas à l'eau, car elles perdraient leurs précieuses vitamines. Une fois cuites, Vous pouvez les ajouter à des cakes, des omelettes, des soupes ou même des tartes. Elles sont aussi délicieuses crues, ajoutées à des mesclins. Pour se mettre en bouche, je propose à Christelle de nous présenter une petite recette avec de l'amarante.
Alors, la recette. Laissez tremper une nuit 50 g de chaque graine suivante. Du riz noir, de l'épeautre vert, de l'amarante, de l'orge perlée. Le lendemain, les faire cuire séparément quelques minutes dans un bouillon de légumes. Dans une poêle, faire revenir 50 g d'échalotes en dés dans de l'huile d'olive. Les retirer, faire revenir ensuite 50 g de riz rond de Camargue et 50 g de riz basmati pendant 6 minutes. Ajouter 50 ml de vin blanc bio, puis, après réduction, ajouter le bouillon de cuisson des autres céréales. Si besoin, on peut rajouter du bouillon. Au bout de 10 minutes, rajoutez les autres céréales et les échalotes. Juste avant de servir, ajoutez 50 g de mascarpone, 100 g de parmesan râpé et 20 g de sedone, ainsi que 50 g de crème précédemment fouettée. Vérifiez l'assaisonnement. Cuire en parallèle 100 g de feuilles d'amarante à la poêle, les assaisonner d'huile et de sel. Servir le risotto et poser les feuilles dessus. Bon appétit, régalez-vous.
Merci Christelle d'avoir prêté ta voix.
Je t'en prie.
Voilà, donc c'était une recette prise dans un ouvrage que nous avons au Planty qui s'appelle « Ma cuisine des plantes sauvages » qui est écrit par Jean-Marie Dumaine. Et donc c'était une recette de risotto à l'amarante et au sédum blanc. Alors, concernant l'amarante, il faut dire que cette plante est très riche en vitamines A, B, C et acide folique, la vitamine B9. Elle contient deux fois plus de fer et quatre fois plus de calcium que le blé dur, ainsi que du cuivre, du zinc, du phosphore et du magnésium, sans compter les 15 à 18% de protéines, dont la lysine, qui favorise la mémoire. Alors, ne boudons plus notre plaisir devant tant d'atouts nutritionnels. Allez, il est temps de faire une petite pause en chanson avec les ogres de Barbac et leur titre « La dispute des légumes ».
On est entré dans la cuisine pour se faire griller des tartines. Mais en regardant vers la table, on a vu une chose incroyable. Perchés du haut de leur casserole, les légumes ont pris la parole comme des personnages délurés,
comme dans un dessin animé.
Ils se sont battus pour nous dire
lequel il nous fallait choisir,
voulant tous être la volaille
et se tenir seuls dans l'assiette.
C'est moi le chou-fleur, celui qui rit, celui qui pleure. Splendeur dont on n'aime pas l'odeur, mais qui veut devenir un seigneur.
Mais voyons, ne soyez pas bêtes, c'est moi qui serai dans l'assiette, la plus coquette, la courgette, et ils n'en laisseront pas une miette.
Écoutez-moi tous les cocos, le plus beau, c'est le haricot. Oh, oui. C'est sûr, j'aurai le dernier mot. Car vous êtes tous trop idiots.
Moi, la tomate, je suis écarlate. Et crue et cuite, tout le monde me flatte. Si vous voulez jouer aux pirates, venez un peu par là qu'on se batte.
On est intervenu afin d'arrêter cette cohue en leur disant tout simplement
qu'on les préférait mélanger, épicés et assaisonnés, pour jouer avec leurs couleurs
et faire la meilleure des saveurs.
L'idée a été acceptée
et ils se sont tous rassemblés
pour faire la plus belle des recettes,
comme si c'était un jour de fête.
Ah, oh, c'est chouette.
La marante est encore aujourd'hui une plante ressource pour beaucoup de peuples. Au niveau médicinal, ses feuilles ont des vertus astringentes. Elle s'utilise en décoction pour leur effet diurétique dû au nitrate de potassium. En usage externe, les feuilles sous forme d'emplâtre calment les irritations et les démangeaisons du fait du pouvoir émolliant de leur mucilage. En usage interne, les feuilles facilitent le flux menstruel et l'équilibre hormonal en œstrogène. Des recherches récentes montrent que les graines protègent des maladies cardiovasculaires en réduisant l'hypertension et le taux de cholestérol. Leur teneur en lysine augmenterait la résistance immunitaire à certains virus, tels celui de l'herpès ou du VIH. Écoutons la chronique « Le bonheur est dans les simples » avec Laura.
Bonjour, aujourd'hui dans cette chronique, j'aimerais vous parler de l'amarante qui a réussi à neutraliser les OGM en Argentine. L'histoire se déroule en Argentine, là où Monsanto a décidé de s'établir en 2012 pour construire le plus grand centre de production de maïs transgénique au monde, 48 000 hectares. Ces OGM sont utilisés pour résister aux nombreux pesticides utilisés pour éradiquer les herbes qui auraient la mauvaise idée de s'incruster dans les cultures. Mais un jour, une plante a fait son apparition dans ces champs d'OGM. Et au lieu de souffrir des herbicides utilisés, elle se multiplia grâce à son usage. Cette plante, c'est l'amarante, une immortelle comme on l'appelle traditionnellement. Connue en Europe depuis la nuit des temps, elle est associée à la combativité de la déesse de la chasse Artémis. Sacralisée dans les cultures, les Aztèques, Incas et Mayas, l'amarante n'en demeure pas moins essentielle pour ses qualités nutritionnelles. Elle symbolise également l'impact du colonialisme espagnol, puisque la plante qui faisait partie de l'alimentation de base de la population fut interdite par les colons pour empêcher qu'elle ne serve lors des cérémonies. Mais l'histoire ne s'écrit pas aussi facilement. Et une domination aussi imposante soit-elle, ne peut venir à bout d'un symbole millénaire. Aussi, après plusieurs siècles de répression, l'amarante a fait son retour dans les champs pour empêcher les OGM de prospérer. Les habitants argentins, ayant bien compris le pouvoir de la plante, se sont alliés à elle. Pour cela, ils ont conçu des bombes de graines, qu'ils ont jetées dans les champs. Et en l'espace de quelques temps, ce sont des milliers d'hectares qui se sont fait envahir par la plante, obligeant les agriculteurs à désherber manuellement dans un premier temps avant de renoncer à cultiver les parcelles OGM face à la prolifération de l'amarante, qui occupait jusqu'à 80% des cultures. Comme pour l'amarante, de nombreux exemples attestent de l'alliance qu'il est possible de nouer entre les vivants pour lutter fertilement face à un monde destructeur. Il nécessite pour cela de nouvelles alliances interespèces, qui induisent de nouvelles pratiques politiques et de sortir du rapport de protecteur à protégé qu'on retrouve dans l'environnementalisme classique. Ces alliances passeront par une compréhension des comportements et les pouvoirs propres des plantes, animaux et autres vivants non humains qui, bien souvent, refusent de se conformer à la discipline du travail forcé par les sociétés humaines, mais suivre leur propre manière de vivre pour engager nos choix d'habitation et d'action. Merci pour votre écoute. J'aime beaucoup cette histoire emblématique où l'amarante, cette plante sacrée, nutritive et merveilleuse, a donné le pouvoir de lutte face à cette compagnie du secteur chimique Monsanto qui détruit nos sols et nos terres.
Je suis la fleur d'amour qu'amarante on appelle et qui vient de Julie adorer les beaux yeux. Rose, retirez-vous, j'ai le nom d'immortel. Il n'appartient qu'à moi de couronner les dieux. Ce poème est extrait de La Guirlande de Julie, un recueil de poèmes offert par le marquis de Montausier à Julie d'Angenne en 1634, où chaque poème célèbre une fleur symbolisant un message d'amour réunissant les plus grands poètes de l'époque. Chanté par Homère et Virgile, qui conseillent au poète de s'en couronner pour éloigner la médisance, l'amarante a longtemps été vénérée par tous les peuples sur la terre. Les Grecs lui ont donné son nom actuel qui signifie « sans flétrir », amarino, du fait de la persistance de ses fleurs. Cette particularité lui vaut d'incarner le symbole d'immortalité. Dans l'Antiquité européenne, les propriétés magiques de l'amarante sont reliées au dieu Jupiter et les jeunes filles s'en font des couronnes pour répandre leurs propriétés bienfaisantes autour d'elles. En Europe, elle occupe une place de choix dans les potagers et ce jusqu'au XIXe siècle où elle est délaissée, comme de nombreuses autres espèces nutritives d'ailleurs. En Italie, elle sert d'alimentation aux familles les plus pauvres qui en confectionnent des soupes avec d'autres herbes sauvages comme l'ortie ou la menthe. L'amarante constitue un excellent fourrage pour les animaux domestiques. Plus tard, en Europe, au XVIIe siècle, nous retrouvons l'amarante dans un poème de Malherbe adressé à Henri IV. Ta louange dans mes vers, d'amarante couronnée, n'aura sa fin terminée qu'en celle de l'univers. La reine Christine de Suède crée en 1653 l'ordre de l'amarante suite à la création d'une fête des dieux au cours de laquelle elle choisit le nom d'amarante ou immortelle pour l'incarner. Ainsi naît l'ordre dont l'insigne est une médaille d'or sur laquelle sont gravés un A et un 5 avec la devise « Dolce nella memora », le souvenir en est agréable. L'année suivante, elle renonce à la couronne pour se consacrer aux arts et aux lettres et s'installe à Rome. L'amarante est cultivée et vénérée par les civilisations précolombiennes à l'instar des Aztèques, des Incas et des Mayas. Ils en consomment les feuilles qui, bouillies et séchées, aident à tenir l'hiver, alors que les graines produisent une farine très nourrissante. L'amarante est vénérée par les Incas, les Aztèques la surnomment la fleur au miracle. L'amarante fut la plante sacrée entre toutes chez les Toltèques et les Aztèques qui l'associaient à l'air et au feu. Les meilleures terres des jardins flottants de Mexico sont réservées à la culture de l'amarante queue de renard, dont la floraison ondoie, tel un serpent sous la brise. Les Aztèques les utilisent dans de nombreuses cérémonies. Les conquistadors, jaloux, jugent ces dernières peu catholiques, proclament l'amarante hors la loi, provoquant ainsi de nombreux massacres et tortures pour tous ceux qui cultivent l'amarante malgré tout. Cependant, malgré tous ces mauvais traitements, l'amarante jouit encore aujourd'hui d'un pouvoir de guérison apprécié des Mexicains et de nombreux sorciers l'utilisent. La plante arrachée tout entière un vendredi de pleine lune et portée sur la poitrine dans un linge neuf et blanc provoque l'invulnérabilité aux balles et aux éclats d'obus. Condition indispensable pour que l'amulette agisse, il faut enterrer à son emplacement de l'argent ou un objet auquel on tient en disant « Je jure de combattre pour la bonne cause, pour la défense du droit et de l'humanité ». Une couronne d'amarante peut dans certaines circonstances rendre invisible. Ce pouvoir très ancien est raconté dans des légendes toltèques où le dieu Quetzalcoatl est dépossédé de sa royauté solaire par ses frères jaloux. Il est condamné à errer invisible dans l'espace et devient le grand maître des airs et des phénomènes atmosphériques. Pour terminer cette émission consacrée à l'amarante, voici une courte fable d'Ésope, écrivain phrygien du VIe siècle avant Jésus-Christ, à l'origine de nombreuses fables orales, ayant inspiré de nombreux poètes et écrivains, dont Jean de La Fontaine. Voici donc l'amarante et la rose, traduite par Émile Chambry en 1927. Une amarante qui avait poussé à côté d'une rose lui dit « Comme tu es belle! Tu fais les délices des dieux et des hommes! Je te félicite de ta beauté et de ton parfum! » « Moi, répond la rose, je ne vis que peu de jours, amarante, et même si l'on ne me cueille pas, je me flétris. Mais toi, tu es toujours en fleurs, et tu restes toujours aussi jeune. » Il vaut mieux durer en se contentant de peu que vivre dans le luxe quelque temps, pour subir ensuite un changement de fortune et même la mort. Après cette émission, vous êtes invité à écouter une série de podcasts réalisés par France Nature Environnement Pays de Loire pour relayer une consultation assurée par l'agence de l'eau Bassin Loire-Bretagne. Tous les habitants-habitantes ont jusqu'au 25 mai pour s'exprimer en ligne sur les pistes d'action proposées pour la gestion de l'eau et des inondations en 2028 et 2033 et dire si notamment elles sont adaptées. Toutes les infos sont sur le site de l'agence de l'eau Loire-Bretagne et donc n'oubliez pas d'écouter jusqu'au bout ces petits podcasts réalisés par France Nature Environnement, réalisés dans les rues de la ville d'Angers, au passant sous la forme d'un micro-trottoir.
L'eau, une des ressources naturelles qui est le plus présente sur la planète, c'est donc une ressource aussi limitée.
Tous les services qui sont nécessaires pour la potabilité de l'eau.
La sécheresse.
C'est nager.
Des inondations.
C'est un besoin vital d'abord.
L'eau, moi je bois.
La nature, l'océan, la pluie, la facture d'eau.
L'eau, on entend beaucoup parler, tout ce qui est nappe phréatique, ça, la contamination des nappes phréatiques. Après, c'est ce que ça m'évoque au premier abord.
Nous sommes allés à la rencontre de certains habitants et habitantes du bassin Loire-Bretagne à l'occasion de la consultation sur l'avenir de l'eau. Avec une première question, savez-vous combien de cours d'eau sont considérés comme en bon état en Pays de la Loire ?
J'ai envie de dire de façon optimiste, beaucoup. Beaucoup sont en bon état.
Je pense qu'on est quand même en dessous des 50%.
Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup.
20%.
Oui, autour de ça, oui. 15% peut-être.
10%.
Oh beaucoup quand même, la Loire, non ? Plus de 50% quand même.
Je crois qu'il y a un doigt pour en avoir. Quand j'étais enfant, on voyait encore des écrevisses dans les ruisseaux et des petits gardons et tout ça. Maintenant, des écrevisses, on a des gardons, on n'en voit plus.
Ça dépend ce que tu entends par bon état.
Ouais.
Parce que bon état, genre, c'est la qualité de l'eau. Est-ce que c'est utilisable ?
On entend par bon état, au sens de la directive cadre européenne, un cours d'eau dont le fonctionnement est proche de son fonctionnement naturel malgré la présence d'activités humaines. Naturellement, un cours d'eau forme des méandres, est connecté à ses zones humides et à sa nappe d'accompagnement, à des habitats diversifiés, une eau avec peu de polluants et en quantité suffisante toute l'année. On va donc regarder, pour déterminer le bon état, la présence de faune bioindicatrice comme certains poissons ou invertébrés, l'absence de matières polluantes, mais aussi son aménagement, ou encore que les prélèvements en eau ne soient pas trop nombreux par rapport à l'eau disponible. De nombreux paramètres sont ainsi analysés pour apprécier la bonne santé de la rivière. Mais en Pays de la Loire, seuls 11% des cours d'eau sont ainsi considérés comme en bon état. Pour quelles raisons ? Qu'est-ce qui les dégrade ?
Pas de sécheresse.
Il y a beaucoup de déchets quand même.
Après, il y a des aspects de pollution.
J'imagine que c'est l'activité humaine, mais ça, c'est vieux comme le monde. Je ne sais pas si c'est pire aujourd'hui qu'il y a un siècle.
L'eau, elle est de moins en moins là parce qu'on utilise beaucoup d'eau pour les douches, pour qu'on boive. Aussi pour voir, on est beaucoup sur la planète.
Les polluants, moi j'ai vu, je voyais mon grand-père arriver bleu, de pesticides, de machin, mais c'était il y a 45-50 ans.
Tous les rejets qu'on peut mettre dans l'eau, moi j'habite pas loin de Châteauneuf-sur-Sarthe, et là-bas il y a une tannerie, et du coup les rejets dans l'eau, là ça pollue vachement.
Avec tous les pesticides et tous les engrais, le bocage qui a été quand même pas mal esquinté.
Il y a trois causes principales qui expliquent l'état dégradé de nos cours d'eau. des problèmes de qualité, et notamment les pollutions diffuses avec la présence de pesticides et de nitrates, des problèmes de quantité, avec trop de prélèvements dans les milieux naturels, notamment en période sèche, et la présence de nombreux plans d'eau, et des problèmes liés à la morphologie des cours d'eau, notamment suite aux travaux de recalibrage qui les ont rendus rectilignes, leur artificialisation ou encore la présence de barrages. Et ces causes souvent se cumulent et s'aggravent mutuellement. Alors quelles pourraient être les solutions pour y remédier et améliorer l'état des cours d'eau ?
Ben, on dit toujours sensibiliser les gens déjà, faire des actions de prévention, ne pas jeter ses déchets.
Ben, toujours au niveau de la pollution, essayer le moins polluer, après comment avoir ?
Ben, faut pas niquer la biodiversité.
Ben, limiter les pollutions directes avec l'eau au maximum, pas de rejet de tout ce qui est produits chimiques et tout. Peut-être justement tous les ports et les essais, les faire, faire ça, enfin je sais pas, trier mieux, je sais pas, dans ce genre-là, je j'y connais rien, mais...
Je pense qu'on peut se reposer sur l'IA pour avoir des données, des choses un peu disruptives. Ce n'est pas forcément les solutions adoptées depuis des dizaines d'années qui sont les bonnes.
Que tout le monde soit raisonnable et penser aux autres, pas penser qu'à soi-même. C'est pas vrai ?
Favoriser la culture bio, le reboisement, remettre des haies.
Après, pour défendre le milieu agricole, ils bossent énormément pour une petite rentabilité, donc à un moment donné, ils ne peuvent pas perdre leur culture non plus, et parfois, ils sont contraints d'utiliser effectivement des produits qui ne sont pas forcément bons pour la nature. Ça aussi, il y aurait sûrement beaucoup à débattre.
Cet hiver, il y a eu beaucoup de rivières qui ont débordé. Donc si nous avions des bassins de rétention, ça permettrait de la réinjecter l'été. Et d'éviter que les poissons crèvent l'été.
Il y a eu beaucoup d'inondations, certes, beaucoup de dégâts, mais cette eau, elle est repartie.
Ne pas utiliser de pesticides dans son jardin, par exemple, parce que ça amène des pesticides dans l'eau. Faire attention aux déchets qu'on jette.
Réduire un certain nombre de pollutions, ça me semble évident. L'utilisation de pesticides, les polluants éternels, etc. Et puis un maximum de retour à l'état naturel. Mais c'est pas simple.
J'ai pas beaucoup d'idées, par contre j'ai des certitudes sur la qualité qui se dégrade, c'est sûr. Après sur les idées, on compte sur les associations comme vous pour en trouver.
France Nature Environnement Pays de la Loire est la fédération régionale des associations de protection de l'environnement. Et nous avons en effet quelques idées sur les solutions et pistes d'action à proposer. Tout d'abord, la perspective du changement climatique doit être intégrée aux prises de décision, en particulier le risque accru de sécheresse et d'inondation. Les zones humides et fonctionnalités des sols doivent être préservées. La sobriété doit guider les choix futurs et les perspectives de stockage de l'eau réfléchies par rapport à leurs impacts et leurs nécessités. Les pollutions doivent être réduites avec un accompagnement de la transition agricole et une amélioration des rejets industriels et domestiques. Enfin, la gouvernance doit être transparente et partagée concernant la gestion de ce bien commun et les connaissances ainsi que la sensibilisation développée. À ce titre, les bénévoles de nos associations s'impliquent dans la politique de l'eau pour défendre la protection des milieux naturels et du bien commun. Vous aussi, vous pouvez faire entendre votre voix en participant à la consultation en cours. L'Agence de l'eau Loire-Bretagne propose un panel de pistes d'action dont vous pouvez apprécier la pertinence. Rendez-vous sur agence.eau-loire-bretagne.fr.
Cette émission est terminée. Avant de nous quitter, vous trouverez toutes les informations pratiques, liens et références dans le blog de notre site www.leplanty.fr. N'hésitez pas à écouter, réécouter sans limite tous nos podcasts de l'émission « Les plantes vagabondes » sur radio-g.fr. Si vous avez aimé et souhaitez partager ce moment nature, faites passer le message autour de vous. Christelle et moi et toute l'équipe du Planty vous donnons rendez-vous en juin sur 101.5 FM pour découvrir la dernière plante de cette saison. La reine des prés.